Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
Dimanche 26 avril, 8h, voici le journal avec Agnès Bonfillon. Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et c'est mardi, Agnès, qu'Edouard Philippe annoncera les grandes lignes du déconfinement prévu le fameux 11 mai.
Oui, effectivement. Le Premier ministre n'a plus que 48 heures pour fignoler ses propositions. Le plan concerne de nombreux secteurs. Il est attendu sur tous les fronts, le Premier ministre. Cela se passera donc après-demain à 15h devant les députés Marie-Bénédicte Allaire.
Oui, dès mardi, le Premier ministre va présenter l'architecture générale du plan aux députés. Rentrée scolaire, travail, politique sanitaire, commerce, transport, grand rassemblement. Des mesures que les parlementaires vont débattre et voter dans la foulée et qui comprendront le traçage numérique. Édouard Philippe a informé hier les présidents du Sénat, Gérard Larcher, et de l'Assemblée, Richard Ferrand. Jean Castex, le haut fonctionnaire qui met le plan en musique, enchaîne aujourd'hui encore les réunions avec les cabinets ministériels. Et puis après le vote à l'Assemblée, il y aura une deuxième phase de concertation avec les élus et les préfets pour définir les adaptations locales. Il y aura de grosses variations, rappelle un conseiller. Ce ne sera pas le même plan en Lozère, territoire quasi épargné, et dans le Haut-Rhin, foyer épidémique. Au final, Édouard Philippe tient le délai de 15 jours que lui avait accordé Emmanuel Macron le lendemain de Pâques. Il est trop tard pour avoir des hésitations, résume un de ses proches fatalistes. Autrement dit, il était urgent de mettre un terme au tâtonnement de ces derniers jours.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Avant ses annonces, l'Académie de médecine a de son côté préconisé quelques mesures très concrètes concernant le retour à l'école, lavage des mains régulier, 1 mètre entre chaque bureau, prise de température obligatoire avant l'entrée dans l'établissement. Et puis concernant le masque, il sera porté à partir du CP, mais pas en classe, uniquement pendant la récréation. Alors le conseil scientifique, pour sa part, prend acte de ces recommandations, mais souligne une décision politique. On rappelle que ses membres étaient plutôt favorables, eux, à une rentrée scolaire en septembre. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a fait savoir que l'avis des médecins servirait de base aux annonces faites mardi.
Et dans d'autres secteurs, Agnès, ce sera l'occasion aussi d'y voir plus clair, notamment les dentistes. Ces dentistes qui n'attendent que ça.
Oui, depuis le 16 mars, tous les cabinets dentaires sont fermés pour éviter la transmission du virus, bien sûr, mais aussi par manque de matériel. Là aussi, nous en revenons aux masques, forcément. Pas sûr que dans 15 jours, ces professionnels aient les moyens d'accueillir en toute sécurité leurs patients, Antoine Decarne.
Dans son cabinet dentaire, Stéphane Beau est bien seul et dans ses stocks, il passe en revue le matériel restant.
Si on ouvre le placard, il reste quoi ? Des serviettes, des gobelets et une boîte de masques. 50 masques pour 3 praticiens, ça fait une journée. On est censé reprendre une activité soi-disant normale, sauf que nos sources d'approvisionnement se sont taries brutalement.
Et cela à cause d'un décret du gouvernement, une demande à tous les fournisseurs d'équipements dentaires de réserver les masques aux hôpitaux jusqu'au 31 mai. Et aujourd'hui, les chirurgiens dentistes n'y ont plus accès.
Tout a été réquisitionné parce qu'il n'y avait pas assez de masques. On a déshabillé Pierre pour habiller Paul. On travaille à 30 cm des bouches avec des instruments capables de projeter des gouttelettes à plusieurs mètres. Donc c'est indispensable.
Indispensable tant la profession est à risque et les masques distribués par l'ARS Hauts-de-France ne suffisent pas pour assurer les besoins habituels. C'est ce qu'estime Thomas Balbi, le président de l'Union régionale des chirurgiens dentistes.
Nous avions eu 2 livraisons de 4000 masques FFP2. Ça ne sera pas assez. La commande couvrira les 10 premiers jours ouvrés et après, ce ne sera plus possible.
Et du coup, les cabinets seraient dans l'obligation de fermer 10 jours après leur réouverture. Impensable pour toute une profession qui espère des actions du gouvernement.
Le reportage d'Antoine Decarne pour RTL dans le nord de la France. Le 11 mai, début progressif du déconfinement. Pour les habitants de Saint-Pierre et Miquelon, ce sera dès demain. Un seul malade a été recensé dans ce territoire d'outre-mer. En métropole, en revanche, le bilan quotidien des morts est reparti à la hausse. 369 personnes supplémentaires sont décédées en 24 heures.
Le BTP à présent, Agnès, dans ce secteur, on n'a pas attendu le 11 mai pour reprendre les chantiers.
Avec une nouvelle façon de travailler, bien sûr, qui intègre les gestes barrières. C'est le cas à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Nicolas Bobby, vous vous êtes rendu sur un chantier, donc, dans un établissement en plein travaux. Malgré les précautions, certains ouvriers ne cachent pas leur inquiétude.
Le port du masque et du casque est obligatoire sur le chantier de construction du collège Racine. La désinfection, c'est le travail de Christina.
Je commence par nettoyer et désinfecter tous les contacts des portes, par exemple là. les tables, tout ça, les toilettes.
Pourtant, ce jeune menuisier travaille la peur au ventre.
On a des masques, on a du gel, on a des lingettes, on a tout ce qu'il faut. Question de sécurité, franchement, je pense que c'est pas top, sincèrement, puisqu'on est énormément sur le chantier.
Pour respecter les distances entre les ouvriers, toutes les entreprises se coordonnent pour ne pas travailler au même endroit. Richard Moquet, le monsieur sécurité.
Vraiment, chaque personne doit être aussi responsable quand elle fait une tâche et qu'elle vient de finir un endroit, mettre un petit coup de lingette histoire de désinfecter et comme ça, il n'y a plus de problème pour les autres.
Covid-19 oblige, à l'avenir, il faudra repenser l'organisation des chantiers. Thierry Mossiman, préfet des Côtes d'Armor.
Et tout ça, ça nécessite de la coordination, ça nécessite du temps, donc les chantiers vont être nécessairement plus longs.
À Saint-Brieuc, les travaux seront terminés pour la rentrée de septembre.
Le reportage de Nicolas Bobby pour RTL. Eux aussi veulent une prime. Le principal syndicat des chauffeurs routiers appelle à la grève le 7 mai prochain. L'UFR-CFDT demande à l'État de démontrer sa gratitude, je cite, à ses salariés de deuxième ligne au front pendant le confinement. Ils souhaitent le versement d'une prime. Pas de retour à la normale avant 2 ans, malgré l'aide exceptionnelle de 7 milliards d'euros à Air France de la part de l'État. Le directeur général de la compagnie aérienne prépare les esprits aux conséquences sociales de la crise. Dans un premier temps, un plan de départ volontaire est envisagé.
Restez bien avec nous, la suite du journal d'Agnès Bonfillon. C'est dans un instant, il est 8h06, très bon réveil. On va s'intéresser à ces Français qui sont toujours bloqués à l'étranger. Ça fait des semaines et ils attendent d'être rapatriés.
RTL Matin. RTL Matin. Stéphane Carpentier.
Et Agnès Bonfillon pour la suite du journal. Des dizaines de milliers de Français ont été rapatriés de l'étranger depuis le début de cette épidémie et parfois non sans mal.
Et surtout, certains sont toujours bloqués. C'est le cas d'Élodie et son mari. Ce couple de Dromois était parti début février au Pérou pour un voyage avec leurs 2 enfants, hein, de 5 ans et 4 mois. Bilan des courses, eh bien, le couple est bloqué, n'a pas la possibilité d'embarquer. Notamment mercredi, il y avait un avion affrété par l'ambassade. Rien. Désormais, l'espace aérien est fermé. Autant dire qu'Élodie est plus qu'inquiète.
On se demande comment c'est possible avec 2 enfants en bas âge, dont un nourrisson, que nous n'ayons pas de place dans cet avion. On nous parle de 600 Français encore bloqués ici. Pourquoi un avion plus grand n'a pas été affrété? Nous, aujourd'hui, on est en sécurité dans un appartement qu'on nous prête. On n'a pas le droit de sortir dans les rues à part pour aller acheter à manger. La police et l'armée sont de partout dans les rues. C'est même les locaux qui allaient faire les courses pour nous, pour qu'on ne sorte pas, puisque les étrangers dans les rues étaient extrêmement mal vu. L'espace aérien est fermé jusqu'à nouvel ordre. On ne sait pas comment les choses vont évoluer ici. Et puis, on a des choses aujourd'hui à faire pour nos enfants, telles que des vaccins, des choses qu'on ne peut plus faire puisque les centres de santé sont fermés. Donc, on espère que les choses vont se débloquer rapidement.
Élodie, joint au Pérou par Nerissa Emani pour RTL. Aux États-Unis, puisque c'est comme ça, Donald Trump ne fera plus de conférences de presse. Vexé par les nombreuses critiques après sa sortie avant-hier sur la possibilité de s'injecter du désinfectant pour combattre le virus, le président américain a décidé d'ignorer les journalistes, les accusant de fake news. Lui, en revanche, revient aux affaires. Le Premier ministre britannique Boris Johnson reprend le travail demain. Il était en convalescence, je vous le rappelle, après son hospitalisation due au Covid. Au niveau mondial, le seuil des 200 000 morts a été franchi. La majorité se trouve en Europe et aux États-Unis.
En Angleterre, Agnès, la première ligue de football doit reprendre dès le 8 juin pour se terminer le 27 juillet.
Il reste 92 matchs du championnat à jouer. Alors cela se passera à huis clos. Les journalistes seront acceptés dans les stades après avoir passé un test, selon nos confrères du Times. En Europe, en fait, la plupart des pays, Philippe Sansfourche, tentent de boucler la saison.
Oui, sans grande surprise, c'est la carotte financière et le montant des droits TV qui poussent ou non les ligues européennes à finir coûte que coûte leur championnat. Et là où les droits sont moins importants, comme aux Pays-Bas ou en Belgique, eh bien les saisons sont d'ores et déjà annulées ou sur le point de l'être. Et paradoxalement, c'est un pays limitrophe, l'Allemagne, qui va sûrement être le premier en Europe à redémarrer son championnat à huis clos, possiblement dès le 9 mai. Les joueurs ont tous repris l'entraînement début avril. Le protocole sanitaire est acté. Ne reste plus que le feu vert de l'État attendu le 30 avril. Alors même si les Allemands disposent de moyens incomparables, notamment en nombre de tests disponibles, c'est un laboratoire sanitaire qui va être observé à la loupe par tous les autres grands championnats. L'Espagne, par exemple, piaffe d'impatience avec son 1 milliard d'euros de droits domestiques et internationaux en suspens. En Angleterre, la date du 8 juin a filtré infiltrés pour une possible reprise de la Première Ligue. Et même l'Italie, pays européen le plus meurtri par la crise, veut annoncer dans les prochains jours une date de reprise pour son championnat professionnel de Serie A.
Philippe Sanfourche du service des sports de RTL. En France, à Amiens, les joueurs du club ont tous été testés avant la reprise de l'entraînement et les résultats ont été envoyés dans un laboratoire allemand.
Le rendez-vous du soir, c'est On refait le sport sur RTL, bien sûr, de 19h30 à 20h. Et puis un 1er mai sans Muguet, Agnès, en tout cas moins que d'habitude.
Bah oui, vendredi prochain, ce ne sera pas simple pour vous de nous trouver des jolies clochettes blanches, Stéphane. Avec le confinement, interdiction d'en vendre dans la rue. Beaucoup de fleuristes sont fermés. La région nantaise représente 85% de la production totale en France. Patrick Véron, le conseiller technique des maraîchers des Pays de la Loire, ne se fait aucune illusion.
On a eu la fermeture des fleuristes, des grossistes, des mandataires de Rungis. Du coup, le seul créneau de vente qui restait pour écouler le muguet, c'est la grande distribution.
Sait-on quelle part de la production sera perdue ?
Oui, en étant réaliste, on va dire, les producteurs ont laissé 70 à 80% des brins dans les parcelles. Du fait de la fermeture de certains marchés et du fait également que la grande surface, cette année, a commandé à peu près moins 30 à moins 35% de ses commandes habituelles.
Patrick Véron, conseiller technique des maraîchers nantais avec Vincent Parisot hier soir sur RTL.
Il faut absolument que je trouve une solution pour en avoir.
Ah bah là.
Le week-end prochain, j'ai absolument pas le choix.
Ah bah ça fait un mois, vous nous le promettez, oui.
Ouais, si je veux que vous soyez de bonne humeur pour une fois, il faut absolument que je trouve ça.